bienvenue dans votre magazine de l'environnement qui va mettre le cap aujourd'hui sur la grande île de l'océan Indien, Arnaud.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. Direction effectivement Madagascar, une île exceptionnelle en proie pourtant à une importante déforestation organisée.
Le climat est assez humide avec des pluies de mousson très violentes et qui ravinent le sol. La forêt était plus ou moins abondante avant, elle a disparu du fait de l'occupation des sols par l'homme. Et l'érosion s'est accentuée et comme le relief est assez vallonné, l'eau de ruissellement provoque des petites fissures dans le sol qui s'approfondissent progressivement et qui forment ces figures très caractéristiques de Madagascar.
L'île, qui regorge de nombreuses espèces endémiques, possède un patrimoine exceptionnel de faune, de flore protégée par des parcs nationaux, dont certains sont classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Mais les événements politiques qui ont agité la grande île ces derniers temps n'ont pas permis d'assurer la pérennité de ces sites vulnérables, déjà malmenés par l'érosion des sols et par toutes sortes d'activités humaines. Les essences les plus rares et les plus convoitées font l'objet d'un pillage organisé que l'on assiste à une déforestation majeure qui risque de condamner définitivement ces écosystèmes uniques. Un reportage de Lydia Itzak à découvrir tout à l'heure, Anne-Cécile, dans la deuxième partie de l'émission.
On n'a plus que 10 ans pour changer nos façons de vivre. Dans 10 ans, il y aura une inertie qui va se faire. On ne pourra plus revenir en arrière. On a besoin d'action. On a besoin de tout le monde. La solution est dans les 6,5 milliards de cerveaux d'êtres humains.
Et vous en faites partie de ces 6 milliards et demi de cerveaux. Yannick Monget, bonjour.
Bonjour.
On va faire, c'est le jeu de cette première partie, on va décortiquer l'actualité environnementale avec vous. Alors, pour vous présenter aux auditeurs, vous avez publié Demain la Terre, un livre aux éditions de La Martinière, qui est basé sur une exposition qui aujourd'hui fait le tour du monde grâce au groupe que vous avez créé, qui s'appelle Symbiome International. Vous pouvez nous expliquer un peu la logique de cette démarche ?
Alors, Symbiome International, effectivement, développe l'exposition qui est tirée de Demain la Terre. Demain la Terre, l'idée, c'était d'expliquer concrètement aux gens, par l'image, finalement, un peu ce que le GIEC dit au niveau international avec l'ONU, les risques...
Le groupe des experts sur le climat.
Voilà, des experts sur l'avenir climatique de la planète. Souvent, les gens ne comprennent pas, quand on leur parle de 1 ou 2 degrés supplémentaires, ce que ça peut impliquer directement ou indirectement au niveau de la planète.
Là, on est à la radio, donc malheureusement, on ne peut pas voir ces images, mais c'est vrai que c'est très parlant. Alors, pour commencer ce tour de l'actualité, Arnaud, il y a évidemment le sommet du G8 qui commence en Italie aujourd'hui et les attentes en matière d'engagement de la part des plus grandes puissances du monde pour lutter contre le réchauffement climatique.
Oui, on est à quelques mois de Copenhague. Le monde doit trouver une stratégie globale pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés de température moyenne globale et on est loin d'un accord. La pression monte et les ONG multiplient leurs actions. En Italie, des écologistes ont escaladé des cheminées de plusieurs usines à charbon pour rappeler que le charbon est le combustible qui produit le plus de gaz à effet de serre. Et hier, à l'aube, Greenpeace menait une opération spectaculaire au pied de la Tour Eiffel. Un reportage de Stéphane Régnier.
Il est 6h du matin, nous sommes à Paris sous le pont d'Iéna, à quelques mètres seulement de la Tour Eiffel. Sur l'eau de la Seine flotte une gigantesque structure bleue et blanche. Mais de quoi s'agit-il ?
C'est pas une boule de neige, une coulée de glace, non ? Ah, c'est magnifique. C'est très beau, vraiment.
Et selon vous, ils ont fait ça pourquoi ?
Pas pour préserver la Terre, non ? Je crois, non ? La planète ?
Sur les lieux se trouve Karine Gavant de l'association Greenpeace. Elle nous en dit un peu plus sur cet objet flottant.
C'est un iceberg, un faux iceberg, que Greenpeace a déposé aujourd'hui sur la Seine, à la veille du sommet du G8, pour interpeller les leaders, et notamment Nicolas Sarkozy, pour qu'ils prennent enfin la tête du combat contre les changements climatiques.
C'est un peu une action choc, on va dire.
C'est une image forte. On veut illustrer les impacts des changements climatiques dans un lieu totalement inattendu. Donc un iceberg sur la Seine, c'est en effet en plein cœur de Paris, complètement inattendu. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'interpeller, de faire réfléchir. Aujourd'hui, les nouvelles des scientifiques du climat sont mauvaises. Et malheureusement, la communauté internationale n'a pas encore apporté la réponse nécessaire à la crise climatique. Cette image, elle vise aussi à interpeller en effet les individus, à leur donner envie de se mobiliser à nos côtés pour faire en sorte que ce sommet de Copenhague soit un succès d'ici la fin de l'année. Et donc on les invite à signer l'appel ultimatum climatique, qui est un appel adressé à Nicolas Sarkozy par plus d'une dizaine d'ONG qui travaillent à la fois sur les questions d'environnement, mais aussi sur les questions de solidarité internationale et sur les questions de protection des droits de l'homme. Donc ils peuvent signer cet appel sur le site www.copenhague-2009.com.
Yannick Manger, est-ce que vous croyez à l'impact de ce genre d'opération ?
Toute opération a son utilité. Maintenant, au niveau des pour ce qui est des politiques, puisque là, il y a quand même question vraiment de faire changer un peu l'état d'esprit des grands dirigeants de ce monde. Il y a clairement, effectivement, une modification. On n'est plus dans le même état qu'il y a deux ans, notamment. Alors, en France, on l'a bien vu avec depuis l'élection présidentielle, avec tout le travail de Nicolas Hulot dans la présidentielle. Mais aux États-Unis, c'est vrai, moi je l'ai vécu aussi, je l'ai vu, un changement radical au niveau de la politique. On était coincé il y a deux ans encore, vraiment, avec le gouvernement fédéral de George Bush. On ne pouvait pas faire grand-chose. Là, on a l'impression qu'il y a un très grand nombre de barrières qui sont en train de tomber. Donc, il y a des éléments qui se mettent en place. Maintenant, c'est le début, il y a énormément à faire. Greenpeace a raison de le dire aussi. C'est vrai que bon, on est encore loin d'avoir.
On n'est qu'à quelques mois de Copenhague.
Oui, il faut espérer que Copenhague effectivement va devenir un grand sommet.
Alors en tout cas, le choix d'un iceberg était judicieux, hein, puisque selon de nouvelles mesures effectuées par un satellite de la NASA, l'épaisseur des glaces arctiques permanentes a fortement diminué entre les hivers 2004 et 2008. Elles ont perdu en volume l'équivalent de 3 fois la France. Au total, la couche de glace arctique a fondu de 68 cm en 4 ans. Vous avez survolé cette glace, ça vous surprend, ces dimensions, ces chiffres sont fous quand même.
Ça ne me surprend pas parce qu'effectivement, moi je l'ai vu, quand on voit des blocs de glace de la taille de villes comme Nancy ou Paris qui se déplacent, ça fait très peur. Et quand je dis ça, on peut même aller dire des blocs de glace de la taille de la Corse qui se déplacent en Antarctique. C'est immense, c'est incroyable. Les sous-marins avaient déjà remarqué une baisse de l'épaisseur du niveau des glaces il y a quelques années, qui était très importante. Maintenant, la grande question, c'est de savoir les effets secondaires, ce que ça va avoir comme effet sur les courants marins. On parle du Gulf Stream, et donc indirectement après sur vraiment toutes les faunes effectivement de l'Arctique. C'est pas seulement un désert blanc, il y a beaucoup d'espèces qui y vivent. Donc voilà, c'est tous ces effets secondaires qui inquiètent.
Oui, il peut se passer beaucoup de choses. Alors justement, je vous propose de changer de direction, d'aller au Liban, où la surexploitation, la pollution et les pratiques de pêche ont ravagé la faune marine du littoral méditerranéen libanais, pénalisant plus de 8000 pêcheurs de leurs principales ressources. Alors pour les biologistes, la situation va de mal en pire. Le manque de ressources entraîne des techniques de pêche encore plus dévastatrices, comme la pêche à la dynamite, qui ne fait qu'aggraver la destruction des écosystèmes. Et pour sortir de ce cercle infernal, les biologistes proposent la création d'aires marines protégées. Mais évidemment, ça ne plaît pas beaucoup aux pêcheurs qui vous disent bon, on va encore se retrouver avec des espaces limités. Alors, comment vous voyez finalement ce qui se passe au Liban ? Là, c'est ce qui se passe un peu partout à travers le monde.
Exactement. Alors, les aires protégées, il y en a de plus en plus, notamment au niveau du Pacifique. On a plusieurs États riverains qui se sont mis ensemble pour créer des grandes aires protégées. Au niveau effectivement de la pêche intensive, c'est un problème qui est vraiment international. On a un très gros souci, c'est aussi le développement de la taille des filets de pêche qui vont racler carrément le fond marin. Dans les zones abyssales, vous avez des espèces endémiques qui n'existent qu'à certains endroits et qui sont menacées d'extinction parce qu'aujourd'hui, on ne pêche pas seulement ce qui est vraiment à quelques dizaines de mètres de la surface, on va très très profondément. On a des filets de pêche qui font la taille de la Tour Eiffel, qui vont aussi profondément. Et c'est une catastrophe. Et il faut que les pêcheurs comprennent dans le monde entier qu'en même temps, ils sont en train de se saborder réellement.
Slimy dans C'est pas du vent sur RFI. Et maintenant, on s'intéresse à l'actualité environnementale d'une région du monde. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'Europe.
Bonjour, Ike Schmidt.
Bonjour.
Alors, le petit tour de l'Europe que vous nous proposez aujourd'hui est un petit tour qui va nous emmener en Grèce et aux Pays-Bas, mais c'est un petit tour qui commence avec la Turquie, avec ce projet de barrage qui fait déjà des remous.
Oui, déjà et encore. Il s'agit du barrage gigantesque sur le Tigre. Ce barrage d'Ilissou, un projet qui comprend la construction de 19 centrales électriques, mais qui en même temps doit entraîner le déplacement forcé de plus de 50 000 riverains kurdes. En plus, ce chantier menace le patrimoine culturel de la ville de Hasan Cave, une ville 10 fois millénaire. Cette ville est condamnée à être noyée dans les flots du Tigre parce que l'État turc a besoin d'alimenter le pays en électricité. Alors hier, la Turquie a annoncé sa ferme volonté d'aller de l'avant dans ce projet, et cela malgré le refus des créditeurs européens de financer ce chantier controversé. L'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, ces trois pays estiment qu'Ankara n'a pas répondu à leurs inquiétudes sur les conséquences dévastatrice. Et du coup, ces trois pays ont renoncé tout simplement à garantir les crédits pour la construction de ce barrage. Mais cela n'impressionne visiblement pas la Turquie.
Une affaire à suivre donc. Alors on passe de la Turquie à la Grèce qui aurait décidé de se mettre au vert.
Oui, en tout cas, le ministre grec du développement, Kostis Hatzidakis, a annoncé une série de mesures destinées à limiter la consommation d'énergie et à promouvoir les énergies renouvelables. Le premier chantier sera le service public. L'équipement devrait être renouvelé pour être moins gourmand en énergie. Et pour les entreprises, le ministre veut créer une caisse verte, une caisse qui va subventionner des projets destinés à réduire la consommation d'énergie. Ce programme sera en partie subventionné par l'Union européenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Grecs consomment 7 fois plus d'énergie que dans les années 80. L'objectif annoncé par le gouvernement est de réduire de 9% cette consommation d'ici 2016.
C'est pas beaucoup 9%.
Non. Alors, c'est un début.
C'est un début. Alors, une idée serait peut-être aussi de profiter du vent de la mer Égée pour produire de l'énergie. Mais là, c'est plutôt les Néerlandais qui font parler
d'eux. Oui, en tout cas pour l'instant. Les Pays-Bas comptent doubler leur capacité à produire de l'énergie éolienne pour atteindre 4000 MW d'ici à 2011. Il faut savoir que les Néerlandais ne sont pas encore tout à fait adeptes de cette énergie propre, avec seulement 2000 éoliennes sur leur territoire, ce qui est peu par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne, par exemple. Mais les Néerlandais ne sont pas sans ambition. Ils veulent que 30% de la production totale d'énergie soit renouvelable en 2020, ce qui dépasse l'objectif annoncé de l'Union européenne qui s'est fixé, vous le savez, 20% comme objectif.
Merci Heike Schmidt.
C'est pas du vent. @rfi.fr.
Yannick Manger, une réaction à cette sélection d'informations environnement sur l'Europe ?
Pour la Turquie, ça me fait penser au barrage des Trois Gorges en Chine. Mmh. Effectivement, bon, il y a toujours les à côté. Il faut étudier le problème dans son ensemble. Il y a peut-être effectivement d'autres solutions qui peuvent être à la fois durables et la force de la mer, par exemple. Il y a des types d'énergie qu'on n'utilise pas beaucoup, qui pourraient l'être au niveau de la Méditerranée, par exemple. Il y a peut-être des choses à faire. Bon, après, pour la Grèce, Dima, ça fait pas mal de choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes à faire. Ça doit être un des pays peut-être plus en retard, je crois, en Europe, effectivement.
Oui, ça ne fait pas partie des bons élèves,
ouais,
ça, c'est
voilà.
Sûr.
Ça, c'est...
Alors, Yannick Manger, vous êtes donc ici parce que vous êtes responsable de Symbiome, Symbiome International, et puis vous avez donc créé ce livre, Demain la Terre, préfacé par Jean-Marie Pelt, qu'on peut trouver encore en librairie aux éditions de La Martinière. Et votre travail, en fait, cherche à stimuler les consciences à partir d'images fortes qui sont les projections du groupe des experts du climat, donc du GIEC, pour que les gens réalisent les enjeux.
Voilà,
c'est ça, l'idée.
On utilise en fait toutes les techniques qui sont utilisées, que les gens connaissent dans le cinéma, surtout aux gros effets spéciaux, vous savez, ces gros films. Donc on utilise les mêmes techniques, les mêmes logiciels. L'idée, c'est de faire une projection dans l'avenir de ce à quoi la Terre pourra ressembler dans 10, 20, 30, 40, 100, 1000 ans, avec les évolutions climatiques, bioclimatiques, puisqu'il y a aussi les évolutions de la faune, de la flore. Donc ce sont des images qui sont futuristes, mais j'insiste sur le terme fiction scientifique. Ce n'est pas du fantastique. C'est-à-dire que tout a une base vraiment qui est vraiment réelle. Quand on montre la montée des eaux, quand on montre l'avancée du désert qui atteint une grande ville comme Pékin, etc., c'est déjà un phénomène qui est en cours. On n'extrapole pas dans le... Voilà, c'est parce que le terme fantastique n'est pas adapté, c'est vraiment la science qui est à la base de ces réalisations. Quand on montre le niveau des mers qui augmente, on a des images satellites, on sait exactement jusqu'à quelle hauteur ça peut aller, donc on peut visualiser au niveau des bâtiments.
Alors, donnez-nous des exemples, justement.
Il faut savoir que la plupart des villes, de toute façon, sur la Terre, enfin, un grand nombre des très grandes villes sont en bordure de mer, donc seront touchées. On pense tout de suite à Venise, mais New York, plein de villes comme ça seront aussi directement touchées. Il n'y a pas que les Pays-Bas. En France, on parlait il y a la Camargue qui est touchée. Il y a plein de régions. Le Bangladesh qui est en train de disparaître totalement. Les Maldives qui sont menacées aussi de disparaître totalement.
Donc... Alors justement, pour nous présenter un petit peu toutes ces situations, toutes ces simules, vous avez choisi un certain nombre de scénarios. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le choix de ces scénarios dans lesquels vous soufflez le froid et le chaud ?
Voilà, le premier scénario que j'avais voulu mettre en place, c'était un scénario, c'est dans l'avenir proche. C'est une idée que j'ai reprise d'ailleurs dans le prochain livre. C'est expliquer ce qui risque de se passer très prochainement. Et alors au début, j'ai été attaqué à un moment sur le côté un peu catastrophiste. Et on s'est rendu compte en seulement 2 ans que la quasi-totalité des images qui avaient été faites dans Demain à Terre sont devenues réelles.
Et ça, c'est impressionnant.
Donc ça fait même froid dans le dos. Et en même temps, ça justifie vraiment le côté un peu de mobilisation et de prévention. Des populations dans les zones à risque. Donc justement, je suis plutôt satisfait en espérant que ça puisse servir pour la suite aussi. Et puis après, effectivement, il y a tout un ensemble de scénarios différents qui va depuis ce qu'on parle avec le refroidissement, le Gulf Stream qui pourrait changer et les implications climatiques qui pourrait y avoir en Europe du Nord et en Amérique du Nord, une désertification accrue de certaines zones, la disparition possible, en tout cas d'une partie de la population d'espèces humaines suite à une chute de la fécondité ou au développement de certaines maladies. Donc il y a plein de scénarios qui sont envisagés et qui sont mis en image.
Merci Yannick Monger d'être passé dans C'est pas du vent. Vous reviendrez dans quelques mois nous parler de votre prochain projet qui s'appelle Terre d'Avenir, oui. Qui là aussi donne un peu des frissons. C'est pas du vent. On revient juste après un rappel de l'actualité. Nous partirons sur l'île de Madagascar. À tout de suite.